Pour votre information, c'est notre troisième chronique en lien avec l'approche aidance. Et je tiens à vous le dire tout de suite, vous pouvez les retrouver sur notre site ckaj.org dans la section balado. Alors, je reçois ce matin encore une fois Steve Ménard de l'Appui. Bonjour, Steve.
Bonjour, Annick. Ça va bien?
Oui, ça va super bien ce matin. Encore un sujet extrêmement important en lien avec l'approche aidance. On parle de la conciliation travail, la conciliation famille, parce que quand on est proche aidant, que ce soit pour les personnes âgées qu'on accompagne ou des gens qui ont des handicaps, peu importe, c'est pas toujours facile de placer leurs besoins dans nos horaires de travail actuels.
Tout à fait, tout à fait. J'ai envie de te poser la question ce matin, Annick. Combien penses-tu qu'il y a de proches aidants qui sont sur le marché du travail en pourcentage?
Oh! 45 % certains.
On n'est pas loin, on n'est pas loin, on est à 46
% 46?
Oui, en fait, là, c'est presque une personne sur deux qui est proche aidante et qui occupe un emploi à temps plein également. Donc, c'est quand même une réalité qui est très présente, ce qui nous confirme en fait que nos proches aidants sont assez jeunes aussi, donc ils sont encore sur le marché du travail. Puis comme employé, en fait, là, quand on est proche aidant, on peut être confronté à différents enjeux. Hein? On peut avoir de la manque de productivité. On peut vivre de la culpabilité
en lien avec
par
la
rapport
fatigue.
À ça. Ben oui, exactement. Il peut avoir de l'absentéisme aussi, tu sais, qui est là. Il peut avoir des erreurs, des accidents au travail. Il peut avoir de la jalousie aussi, puis de l'incompréhension de la part de nos collègues, hein, parce qu'on s'absente souvent et tout ça. Donc, des fois, on peut avoir un sentiment d'injustice qui est là.
Ça me fait penser à, tu sais, quand on a eu les congés maternité, paternité, les gens jugent beaucoup par rapport à ça. Puis c'est un peu ça qu'on vit parfois dans nos milieux de travail. Pas partout, heureusement. Pas partout.
Non, c'est ça, absolument. Tu sais, on peut retrouver aussi des pertes financières, tu sais, parce que, bon, des fois, on doit s'absenter de façon prolongée. Donc, là, il y a une perte de revenus qui est là. Fait que quand on est proche aidant puis qu'on travaille en même temps, on peut avoir vraiment beaucoup d'enjeux là, de ce type-là qui sont présents. Fait que c'est pourquoi c'est important d'essayer de garder un équilibre dans tout ça puis d'essayer d'avoir un réseau autour de nous. Hein. Moi, j'appelle ça les proches aidants secondaires. Donc, des gens de confiance qu'on a autour de soi, tu sais, que ça peut être des amis de la famille qui peuvent nous soutenir, qui peuvent nous aider aussi pour réaliser différentes petites tâches pour pas que tout repose sur nous puis qu'on puisse là, pas être hypothéqué là, au niveau du temps qu'on a disponible pour notre emploi. Là.
Quand c'est possible,
quand c'est possible
évidemment,
là,
parce
évidemment,
qu'on voit souvent hein, toujours la même personne qui fait toujours les mêmes choses pour
absolument. Moi, je vous donne des conseils aujourd'hui, mais c'est toujours dans un monde idéal, mais on est très conscient aussi que les réalités de tous et chacun, des fois, sont différentes, donc on doit des fois jongler avec ce qu'on est capable de faire puis ce qui est disponible aussi. Là.
Allez, j'ai le goût de parler de la responsabilité des employeurs. Et là-dessus, je félicite mon employeur ici parce qu'il y a beaucoup d'ouverture en lien avec des congés comme ça. Vraiment, merci CKJ, mais on pourrait dire merci à plusieurs entreprises en ce moment, peut-être des employeurs qui nous écoutent. Il y en a d'autres qui sont un petit peu moins sensibilisés par rapport à ça. C'est peut-être à eux qu'on veut parler ce matin.
Ben oui, absolument. Tu sais, puis on parle de la responsabilité de l'employeur, mais il y a aussi une responsabilité de l'employé, hein, parce que tu sais, l'employeur ne peut pas assumer certaines responsabilités, avoir des ouvertures s'il n'est pas au courant de la situation. Donc, comme employé, d'abord et avant tout, tu sais, on doit informer notre employeur qu'on est en situation de proche aidance, lui expliquer notre réalité, t'sais, ce à quoi on est confronté, puis de voir en fait s'il y a des moyens là, de s'accommoder de part et d'autre au niveau de l'emploi. Puis c'est sûr que pour les employeurs, ben, y a quand même des lois aussi qui protègent les employés là, par rapport à ça. Donc, tu sais, un employeur, exemple, est dans l'obligation, en fait, d'accorder là, une absence sans salaire jusqu'à 16 semaines quand on s'occupe d'un adulte qui est gravement malade ou d'un enfant mineur. Puis dans le cas d'un enfant mineur, ça peut aller jusqu'à 35 semaines. Donc, l'employeur, selon la loi, est obligé, en fait, de pouvoir libérer cet employé-là. Là,
puis lui garantir son emploi
c'est
au
ça,
retour.
C'est ça, exactement. Puis quand on parle d'accompagnement de quelqu'un en fin de vie, hein, je vais donner un exemple, mais mettons j'accompagne mon conjoint, ma conjointe en fin de vie, on peut avoir jusqu'à 27 semaines là, d'absence qui est prévue par la loi, et ça peut aller jusqu'à 104 semaines dans le cas d'un enfant mineur qui est en fin de vie. Ooh. Donc, tu sais, ça, c'est des fois, c'est de l'information que les gens ne connaissent pas, mais c'est vraiment la loi là, qui dit ça puis qui protège dirige les personnes à ce sujet-là. Donc, comme employeur, ben, tu sais, il faut se montrer vraiment réceptif et sensible là, à ces réalités-là. Essayer de trouver des façons de pouvoir accommoder nos employés, d'être conciliants. Puis c'est évident que ça ne s'applique pas dans tous les cadres d'emploi. Hein. On le sait, il y a des emplois que...
C'est pas possible,
parce que des fois, c'est du service essentiel et tout ça, c'est pas possible de remplacer. Mais tu sais, dans les travaux qui sont plus, mettons, de bureau, des choses comme ça, ben, tu sais, l'employeur peut mettre des mesures en place, comme la flexibilité d'horaire, d'avoir des congés personnels sans justification, tu sais, qu'on soit pas toujours obligé de dire, ben aujourd'hui, je dois m'absenter parce que j'accompagne ma maman à un rendez-vous médical, tu sais, de garder un peu... la confidentialité là, par rapport à ces absences-là. T'sais, des fois, on sent le besoin de se justifier, hein, de dire ben, « aujourd'hui, je rentre pas, je suis malade, j'ai tel problème de santé aujourd'hui », mais on n'est pas obligé d'aller aussi loin que ça là, dans les faits. Là, on peut
tout
simplement...
parce que ça dépend toujours. Hein, y en a qui s'en servent contre nous des fois, ou quand tu parlais de jalousie tout à l'heure, c'est vrai que ça arrive parfois. Donc, l'employeur a des responsabilités par rapport à ça. Puis je pense que c'est intéressant de le dire parce que de plus en plus, il va y avoir des proches aidants et on va avoir besoin de trouver des moyens de s'organiser autrement. Puis de, tu sais, comme par exemple ici, quand on a besoin de sortir, peu importe l'employé qui a besoin de sortir pour une maladie ou n'importe quoi, on est capable de préenregistrer des bouts d'émission. Mm-hmm. C'est une façon de travailler pour pouvoir aller à nos rendez-vous. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? Des fois, on peut échanger une journée ou quelques heures avec un collègue.
Il y a plein de discussions
qu'on peut avoir là-dessus.
Tu sais, quand on est dans un milieu de travail où il y a des assurances collectives et tout ça, il y a des programmes d'aide aux employés aussi. Tu sais, quand on voit que notre employé est moins productif, qu'il vit de la détresse, du stress, de la fatigue et tout ça, ben, on peut le diriger vers ces programmes d'aide aux employés-là qui peuvent être très bénéfiques. T'sais. Des fois, c'est juste de tendre la main pour amener les gens à aller se diriger vers des services appropriés pour eux, pour les aider. Là. Donc, l'employeur, là, peut c'est pas une source non négligeable, en fait.
Il y a un rôle important.
Oui, exactement.
Là-dedans. Maintenant, on va parler de mesures de compassion. Moi, ça fait pas si longtemps que ça que je sais que ça existe.
Bien, en fait, c'est tout récent, là, la mesure de compassion. C'est arrivé, en fait, là, avec Marguerite Blais, là, qui a travaillé à un plan d'action gouvernemental en proche aidance, qui a mis une loi en place et tout ça. Donc, il y a des choses qui ont suivi par rapport à ça, dont la fameuse mesure de compassion. Puis, la mesure de compassion, en fait, là, c'est un peu le même principe, je vais le vulgariser, mais c'est un peu le même principe que faire de l'assurance chômage. Donc, comment ça fonctionne, c'est qu'on reçoit, dans le fond, 55 % de son salaire jusqu'à concurrence de 650 $ par semaine. Puis, dans le fond, c'est pour s'occuper, là, si on s'occupe d'un adulte, on a le droit à 15 semaines de prestations d'assurance-emploi. Puis, si on s'occupe d'un enfant mineur, ça peut aller jusqu'à 35 semaines. Donc, dans ces cas-là, on peut, comme proche aidant, avoir recours à ça pour avoir de l'aide financière là, si vraiment on doit quitter notre emploi de façon temporaire pour prendre soin d'un proche qui vit une situation là, X, Y, Z par rapport à la santé. Puis il y a aussi... La mesure, en fait, que elle, c'est si, mettons, le proche, il n'y a pas un bon pronostic, là, t'sais, qu'on se dirige vers un décès, ben là, à ce moment-là, on passe, au lieu de 15 semaines pour un adulte, on va passer à 26 semaines. Donc là, si on accompagne quelqu'un en fin de vie dont le pronostic est défavorable, on peut recevoir 55 % de son salaire jusqu'à 26 semaines. Les seules conditions par rapport à tout ça, évidemment, c'est qu'il faut occuper un emploi. Donc, on ne peut pas avoir la mesure de compassion si on ne travaille pas. Et il faut avoir cumulé 600 heures d'emploi au cours des 52 dernières semaines de l'année. Puis il faut avoir aussi un certificat médical, donc soit un papier du médecin qui atteste que, bon, ben monsieur, madame X prend soin d'un parent qui est en fin de vie. Donc, c'est avec ça qu'on va devoir fournir ça avec notre demande de prestation d'assurance-emploi pour pouvoir recevoir cette fameuse prestation-là.
Est-ce que dans le 15 semaines dont on parlait tout à l'heure, par exemple, quand on a des personnes qui ont des problèmes cognitifs ou à un moment donné, on est en attente d'un placement parce que la personne s'est blessée, elle ne peut plus rester toute seule à la maison, est-ce qu'à un moment donné, on est obligé de quitter son emploi pour un temps, des fois pour s'occuper d'un parent, ou est-ce que ce 15 semaines-là, ça peut nous aider ou c'est pas...
Bien, en fait, c'est vraiment, faut y aller situation par situation, hein, parce qu'on le sait souvent, avec l'assurance chômage, il y a plein d'évaluations,
oui,
de critères,
oui,
et tout ça. Fait que c'est sûr que c'est vraiment selon l'évaluation, puis c'est selon le certificat médical qu'on va avoir aussi. T'sais, dans le sens que si le médecin constate que ça prend vraiment
quelqu'un
qui quitte son emploi
personne.
Pour encadrer la personne,
okay,
24 heures sur 24, à ce moment-là, ça va être admissible. T'sais. Fait que c'est, faut pas que ça vienne de soi en se disant, ah ben moi, volontairement, je vais quitter mon emploi pour 15 semaines parce que je veux prendre soin de ma personne.
C'est important, faut cette nuance-là.
C'est ça. Il faut qu'il y ait un contexte qui fasse que, dans le fond, on n'a pas le choix parce qu'on a une situation X, Y, Z présentement qui fait qu'on a quelqu'un qui est autour de nous qui a besoin d'assistance 24 heures sur 24, 7 jours sur 7.
Hey, c'est vraiment intéressant. Toutes des choses qu'on ne sait pas ou des fois on a entendu parler, mais on n'est pas allé au bout du sujet.
Oui. Puis, tu sais, si les gens veulent s'informer davantage, tu sais, vous pouvez taper mesures de compassion sur Google. Ça va nous amener sur le site du gouvernement du Québec et du Canada. On peut voir toutes les différentes mesures qui sont là avec les conditions d'admissibilité, les différents critères, les différents programmes. Donc, je vous invite à aller les consulter. Là, aujourd'hui, on vous a fait un topo parce qu'on est un peu restreint dans le temps, mais j'invite les auditeurs à aller s'informer davantage là-dessus. Là. Tu sais, il y a des beaux programmes, puis il ne faut pas avoir peur de les utiliser. Là. Ils sont là pour ça.
La semaine prochaine, Steve, tu vas revenir à 9h10, jeudi, c'est important de le dire. Dans notre chronique, ça va être, les sujets là, seront comment obtenir des services. On va faire le portrait des services en proche aidance dans la région, puis l'importance d'avoir un bon réseau de soutien, encore une fois.
Oui.
Très, très important.
Oui, absolument. Mais c'est ça, on va vraiment faire un tour d'horizon là, pour... on est un peu rendu là au niveau de nos chroniques. On parle beaucoup, mais l'objectif aussi, c'est de donner l'accessibilité des services aux gens. Donc, on va pouvoir en regarder ça en détail là, pour que les gens sachent où se diriger pour obtenir du soutien.
Convaincu que plusieurs personnes se sont reconnues ce matin en écoutant cette chronique. Si jamais on veut avoir de l'aide, parce que vous avez une ligne où on peut être entendu, on peut être écouté avec des spécialistes qui nous répondent puis qui connaissent ça, la prochaine danse. Alors, le numéro de téléphone à composer, ce serait quoi, Steve?
Oui, donc c'est le 1-855-852-7784. Donc, c'est notre ligne Info Aidant. Elle est disponible 7 jours sur 7, de 8h à 20h.
Merci beaucoup. À la semaine prochaine.
Bye-bye.